Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleur. Une émission réalisée par Corinelle. En terre de couleur, vous propose de flâner sur les traces d'un peintre, à travers son histoire, son œuvre, ses musées. Je vous souhaite un agréable voyage dans l'univers de la peinture, et spécialement pour cette série, au cœur de l'impressionnisme. Une touche de jaune de cadmium, un trait de Carmen Garance, une pointe de bleu de Prusse, un soupçon de blanc de titane. Et voilà, la palette est prête. Prenons nos pinceaux, la toile encore vierge, et posons notre chevalet en terre parisienne. Bienvenue chez Marie Stevenson Cassatt. Allegheny, Pittsburgh, USA, mai 1844. Le Ménil Terribus, France, juin 1926. Dans l'histoire de l'art, la peinture est majoritairement une affaire d'hommes. En effet, peu de femmes y sont représentées. Le mouvement impressionniste ne déroge pas à cette constatation, puisque seulement quelques femmes sont liées à cette période. Tout d'abord, Berthe Morisot, belle-sœur de Manet. Ensuite, Eva González, élève de Manet, qui, tout comme son maître, ne participe à guère aux expositions des indépendants, bien que ce dernier les a côtoyées et accompagnées quelquefois. Enfin, Marie Cassatt.
Qui est-elle donc ?
C'est une Américaine arrivée à Paris au milieu des années 1860. Elle va se joindre au groupe des novateurs grâce à Edgar Degas. La sympathie qui va les unir durera près de 40 ans. La carrière de Marie va s'effectuer essentiellement en France et axée principalement sur la figure humaine, plutôt féminine. La femme dans son quotidien, la maternité, la mère, l'enfant en sont les différents sujets. À l'inverse de certains impressionnistes orientés sur le plein air, paysagistes, peu de vues extérieures existent dans l'œuvre de Cassatt, à part quelques scènes de jardin ou d'eau, toujours accompagnées de figures. Elle s'est attachée uniquement aux scènes d'intérieur, à la relation mère-enfant, qui tiennent une place prépondérante chez elle. A contrario, peu d'hommes sont représentés, excepté son frère Alexander ou ses neveux. Marie Cassatt ne se laisse pas enfermer dans un style particulier et innove en matière de techniques picturales multiples. Tout au long de sa carrière de portraitiste, elle expérimente, utilise l'huile, la gouache, la pointe sèche, l'aquatinte, l'eau forte, le vernis mou, mixant aussi les différents procédés. Aquarelliste, patelliste, aquafortiste, graveuse, elle ose dans son art à l'instar de Degas. D'ailleurs, comme lui, elle va à l'essentiel, à la mise en page décentrée, empreinte à Renoir la lumière et à Manet les aplats. Elle possède un coup de crayon énergique pour le décor, gommant le superflu, mais s'applique à retranscrire la personnalité, les traits, la finesse des visages. Cette particularité, chère à Marie Cassatt, donne à ses tableaux une impression d'inachevé parfois. Après avoir saisi la femme dans ses activités quotidiennes, telles le bain du bébé, les câlins, la toilette, l'heure du thé, les visites, après 1900, elle se consacre davantage sur les portraits d'enfants et délaisse la maternité. Au cours de sa longue carrière artistique, puisqu'elle vécut près de 60 ans en France, elle produit environ 250 gravures, dont les célèbres aquatintes en couleur qui feront son succès. N'oublions pas non plus que Marie a largement contribué à faire entrer dans les musées américains les œuvres de ses amis collectionneurs. D'ailleurs, elle est conseillère en matière d'achat de tableaux impressionnistes. Américaine et femme, il n'est pas aisé de se mesurer aux peintres majoritairement masculins. Indépendante, au caractère affirmé, elle a su relever le défi des deux côtés de l'Atlantique et a gagné une notoriété toute méritée en tant que portraitiste renommée.
Une nationalité américaine avec une ascendance française.
De lointaines origines la ramènent à la France. En effet, son ancêtre Jacques Cossard est un Huguenot qui s'enfuit au moment de la Saint-Barthélemy, en Belgique, à Liège, avant de continuer vers la Hollande. Pour rappel, le massacre des protestants à Paris a eu lieu le 24 août 1572 sous le règne de Charles IX, fils de Catherine de Médicis. L'amiral de Coligny, rescapé d'un premier attentat, y laissa la vie après avoir été tué et défenestré. Pour échapper aux persécutions, les Huguenots protestants du royaume de France et de Navarre se réfugient alors vers les pays protestants.
Thank you.
En 1662, la descendance s'installe à la Nouvelle-Amsterdam, l'actuelle New York, pour s'établir ensuite en Pennsylvanie et y faire fortune en tant que spéculateur foncier et investisseur. Le père de Marie, Robert Simpson Cassatt, né en 1806, occupe des fonctions de maire et de président du Select Council. C'est un homme d'affaires avisé, un courtier, créateur de l'établissement d'investissement Cassatt & Co., expert dans le coton à Pittsburgh. Cette marchandise prend son essor en Amérique et va en favoriser la prospérité. Rappelons-nous, la famille maternelle de Degas, qui y fit fortune aussi en Louisiane. La société s'installera ensuite à Philadelphie pour prospérer au XXe siècle. Catherine Kelso Johnston, mère de Marie, est née en 1816 d'une lignée irlandaise-écossaise. Elle reçoit une éducation française, parle sept langues, enseignée par une préceptrice dont la formation a été dispensée par une Française. Son père, Alexander Johnston, est président de la Banque de Pittsburgh en Pennsylvanie. De la famille est aussi installée dans le New Jersey comme banquier ou médecin. Marie ne connaîtra pas ses grands-parents maternels, disparus bien avant sa naissance. Par contre, elle porte le nom de cette grand-mère, Marie Stevenson. Sa sœur, Lydia Simpson, hérite du patronyme de sa grand-mère paternelle. Quant à son frère, Alexander Johnston, il reçoit le nom de ce grand-père maternel. Catherine Kelso Johnston et Robert Simpson Cassatt grandissent donc à Pittsburgh, centre industriel actif qui abrite de nos jours le musée d'art de l'Institut Carnegie. Ils se rencontrent et se marient dans cette ville. De cette union, naît une fille Catherine, décédée bébé. Puis, Lydia en 1837, Alexander en 39, Robert en 42, dont la vie va être brièvement écourtée, Marie en 44, Georges en 46, décédé à un mois, et Joseph en 49. Des cinq enfants, seuls Alexander et Joseph auront une descendance. Marie Stevenson Cassatt voit donc le jour le 22 ou 23 mai 1844 ou 43 selon les sources en Pennsylvanie à Allegheny, un faubourg de Pittsburgh de nos jours. Elle arrive dans une famille aisée et reçoit une brillante éducation.
Des voyages en perspective.
Son père, âgé de 42 ans, ayant fait fortune, estime qu'il peut prendre sa retraite en 1848 et peut subvenir largement aux besoins de sa famille. En 1949, il déménage à Philadelphie. Dorénavant, il va pouvoir voyager en Europe. Il prépare un déplacement outre-Atlantique à l'automne 1951, car Robert, le troisième enfant, est gravement malade. La famille Cassatt s'installe alors à Paris pendant 2 ans pour soigner Ruby. Marie, âgée de 7 ans, apprend le français à l'école. Puis, de 1953 à 1955, les Cassatt résident en Allemagne, à Heidelberg et Darmstadt. Les enfants apprennent alors l'allemand. C'est aussi leur premier contact avec la peinture, puisque le peintre Baumgartner, en 54, exécute leur portrait, dont celui de Marie. Alexander se dirige vers des études d'ingénieur. Malheureusement, l'état de santé de Robert se dégrade et il s'éteint le 25 mai 55, à l'âge de 13 ans, en Allemagne, d'une maladie incurable. Après un détour par Paris, certainement pour l'exposition universelle, la famille rentre aux États-Unis, à Philadelphie.
Naissance d'une vocation.
Marie suit des cours d'équitation, de dessin. Elle parle le français et l'allemand. En 1960, à 16 ans, elle décide d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie, à Philadelphie. Elle y parfait sa formation, effectue des copies, mais l'enseignement donné ne lui convient guère. Marie, au caractère rebelle, renâcle aux esquisses d'après des modèles ou aux copies. Étudier le dessin avant la peinture ne l'enchante pas. D'ailleurs, elle ne reste que peu d'années dans cette institution. L'accès à la culture et l'éducation artistique étrangère se développe grâce à la maison Goupil et compagnie, qui a créé en 1848 une galerie à New York. Sont exposées à la succursale les toiles d'un petit groupe de peintres parisiens. Ainsi, les jeunes artistes américains peuvent-ils élargir leurs connaissances en matière d'art et avoir accès aux tableaux de certains maîtres français, tels Jérôme, qui n'est autre que le gendre de Goupil, Édouard Frère ou Paul Soyer. Pour certains, c'est le rêve d'évasion vers le vieux continent. Un jour, Marie annonce à son père qu'elle souhaite poursuivre ses études d'art en Europe afin d'étudier auprès des grands maîtres. Elle veut devenir une artiste peintre et pas seulement être confinée à l'aquarelle ou aux miniatures, comme c'était la tradition pour les femmes de l'époque. Son père lui rétorque alors.
J'aimerais presque mieux te voir morte.
Marie, résolument moderne, veut son indépendance. N'oublions pas qu'elle grandit dans la ligne des droits de la femme, mouvement libérateur et d'émancipation qui a démarré autour de 1840. En 1865, la guerre de sécession opposant les États du Sud esclavagistes à ceux du Nord abolitionnistes s'achève. Les échanges, les voyages maritimes reprennent. Marie, âgée de 21 ans, accompagnée de sa mère, retourne à Paris en compagnie d'Elisa Haldeman, une camarade des Beaux-Arts. D'autres étudiants, comme Thomas Eakins, font la traversée aussi pour aller s'instruire dans les prestigieuses écoles d'art européennes. Mais le cheminement sera différent entre celui de Marie et de Thomas. Madame Catherine Cassatt laisse donc les jeunes filles à Paris et rentre à Philadelphie.
Contre-temps.
Une grande déception les attend dans la capitale. En effet, l'école des Beaux-Arts n'est pas encore ouverte aux filles. Elle ne les accueillera qu'à partir de 1897. Par ailleurs, n'y entre pas qui veut, puisqu'il faut réussir l'examen d'entrée d'une part, et d'autre part, à cette époque, les demandes émanant de pays étrangers sont momentanément écartées. D'autant plus que les relations franco-américaines sont des plus tendues sous le Second Empire, du fait de l'envahissement du Mexique par la France. Qu'importe, il n'y a pas d'obstacle pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leur passion. Les jeunes Américains envoient une pétition contre cette discrimination aux Beaux-Arts. Concernant les étudiantes, elles ne sont admises que dans les ateliers de maîtres ou des ateliers moins cotés. Et n'ont pas le droit de reproduire des nus masculins si ce n'est qu'avec des modèles pourvus de caleçons. À défaut de pouvoir accéder à la prestigieuse école, en 66, Marie Cassatt rentre dans l'atelier d'un maître, le peintre académique Jean-Léon Jérôme, passionné de l'Antiquité et connu outre-Atlantique. Elle y rejoint son concitoyen Thomas Eakins, qui deviendra par la suite professeur et directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Philadelphie. Jérôme, défenseur de l'art officiel, est passé par l'atelier réputé de Charles Glaire. Rappelez-vous Renoir, Sisley, Basile et Monet qui ont fait leur apprentissage. Le principal est de pouvoir dessiner, d'être corrigé et de profiter de modèles vivants. Les professeurs de l'école interviennent pour évaluer le travail fourni. Par ce biais, Marie Cassatt réussit à bénéficier des conseils des enseignants d'art. En complément des cours de Jérôme, elle s'inscrit dans l'atelier de Charles Chaplin, portraitiste renommé de la bourgeoisie parisienne. Elle y côtoie Eva González, future élève de Manet. Au bout d'un an, en 67, elle part chez Édouard Frère, à Écouen, au nord de Paris. Elle y rencontre aussi Paul-Constant Soyer, peintre de genre, axé sur la peinture paysanne. De temps en temps, elle retourne près de son professeur Chaplin. À cette époque, elle travaille sur son tableau, La joueuse de mandoline, qu'elle envoie au salon de 1868. Le jury, bienveillant, accepte cette toile correcte d'une facture très académique. Elle s'est recommandée comme élève de Chaplin et de Soyer pour ce tableau. Tour à tour, Marie fréquente divers ateliers à Paris, Écouen, Courance, Villers-le-Bel. Écouen et son château du XVIe siècle, d'Anne de Montmorency, abritent une colonie d'intellectuels et d'artistes. D'ailleurs, les Américains racontent.
Ce que Cambridge est à Boston, Écouen l'est à Paris. Un lieu de retraite pour ces gens de lettres et ces artistes.
Non loin, le peintre d'histoire, Thomas Couture, qui remporta le prix de Rome en 1837, tient un atelier à Villers-le-Bel. Le style de Couture est plus empâté, coloré et éclairci. En 68, Marie s'inscrit alors auprès de lui, mais garde des liens avec tous ses professeurs. Elle visite aussi Barbizon, en forêt de Fontainebleau, au lieu de rendez-vous des nouveaux paysagistes. Elle obtient aussi sa carte de copiste au Louvre pour copier sans relâche les grands maîtres jusqu'en 1870, date à laquelle elle part pour l'Italie. Notre voyage se termine pour aujourd'hui sur des débuts prometteurs pour l'artiste. Prenons le chemin de fer et retrouvons-nous prochainement sur cette même antenne pour des escales italiennes et espagnoles. Voyage en terre de couleur, un programme Maurice Clément Fèvre. Technique, participation, Pascal Laurière.